Les mille et une nuits, tome 8, chapitre 12. Histoire du roi Cadidan. Je montai sur le trône dans un âge fort jeune. Ébloui de ma gloire et enivré de ma puissance, j'imaginais que tous mes voisins devaient se ranger sous mes lois. Un d'entre eux se montra jaloux de conserver son indépendance. Je lui déclarai la guerre. Il n'avait qu'une poignée de monde à m'opposer. J'étais à la tête d'une armée nombreuse, et je croyais marcher à une victoire assurée. L'événement trompa cruellement mon attente. Contraint de prendre honteusement la fuite, je fus obligé d'abandonner mes états au vainqueur et de me retirer dans des montagnes avec 50 hommes qui n'avaient pas voulu m'abandonner. La Providence me fit rencontrer dans ces montagnes un derviche renfermé dans son ermitage et entièrement occupé des exercices et des pratiques de la religion. Je fis connaissance avec lui et je lui racontai mon malheur. « Je ne sais, lui dis-je en finissant, ce qui a pu causer ma défaite. Mon ennemi n'avait que 800 hommes, et j'en avais 800 000. »« Votre ennemi, me dit le saint personnage, mettait sa confiance en Dieu, et vous, vous mettiez la vôtre dans le nombre de vos troupes. Voilà pourquoi votre ennemi a été vainqueur, et que vous avez été défait. Reconnaissez votre faute, et mettez désormais votre espoir dans le secours du Tout-Puissant. » Ces paroles furent pour moi un trait de lumière. J'élevai mes regards en haut et je gémis de l'orgueil et de la présomption qui m'avaient aveuglé jusque-là. Au bout de quelque temps, le bon derviche vint me trouver et me dit « Votre ennemi a cessé de placer sa confiance en Dieu. L'orgueil s'est glissé dans son cœur. Je crois que c'est sa valeur qui l'a fait triompher. Vous seul, vous pourriez aujourd'hui le mettre en déroute. » J'ajoutai foi au discours du derviche. Je rassemblai ma faible escorte à laquelle j'avais inspiré des sentiments pareils aux miens, et je marchai à la rencontre des ennemis. Nous fondîmes sur eux pendant la nuit, en poussant des cris épouvantables. Ils crurent que nous étions un grand nombre et prirent la fuite. C'est ainsi que j'ai recouvré mes états par la toute-puissance de Dieu. C'est en lui seul aujourd'hui que je mets mon espoir, et je ne manque pas d'implorer son assistance dans toutes les guerres que j'ai à soutenir. Parthéman, en entendant l'histoire du roi Cadidan, crut sortir d'un long assoupissement. « Gloire à Dieu dont je reconnais maintenant la toute-puissance » s'écria-t-il. « Votre histoire, sire, est précisément la mienne. Je vous ai caché mon nom et mes malheurs, mais le service que vous venez de me rendre, en dissipant mon aveuglement, m'arrache mon secret. Je suis le roi Parthéman. Ma confiance dans mes propres forces m'a fait perdre ma couronne et a rendu inutiles les efforts que j'ai faits pour la recouvrer. Je veux profiter de votre exemple et suivre désormais la route que vous avez suivie. » À ces mots, Parthéman prit congé du roi Cadidan et se retira dans une solitude pour y pleurer ses fautes et s'appliquer uniquement aux exercices de la piété et au service de Dieu. Une nuit, qu'il dormait tranquillement, il vit en songe un vieillard qui lui tint ce discours. « Dieu a exaucé tes prières. Il est content de ton repentir. Il t'accordera son secours et te fera triompher de ton ennemi. » Le roi Parthéman, plein de confiance dans cette vision, prit le chemin de son royaume. Arrivé près de sa capitale, il rencontra quelques personnes attachées au service du nouveau roi, mais qui, malgré cela, regrettaient vivement son prédécesseur. Elles virent bien qu'il venait d'un pays étranger et lui conseillèrent de ne pas entrer dans la ville. Le nouveau monarque, dit l'une d'elles, a une telle frayeur du dernier roi Parthéman qu'il fait trancher la tête à tous les étrangers dans la crainte qu'il ne soit ou le roi Parthéman ou quelque émissaire de sa part. « Pourquoi craint-il Parthéman ?» leur demanda le prince, assuré qu'il n'était pas reconnu. « C'est Dieu seul qu'on doit craindre. Le mal et le bien ne viennent que de lui. »« Vous avez raison, lui dit-on, mais le nouveau roi s'embarrasse peu des jugements de Dieu. Il se repose sur sa puissance et sur les troupes qui l'entourent, et cherche à conserver par la tyrannie une autorité qu'il a usurpée par la violence. Il sait que tous les cœurs sont pour Parthéman, et que s'il paraissait ici, 100 000 bras se lèveraient pour le remettre sur le trône. » Parthéman, touché de l'attachement que conservaient pour lui ses officiers de l'usurpateur, crut devoir leur déclarer qui il était. Aussitôt, ils descendirent de cheval, se prosternèrent devant lui, baissèrent ses étriers, et lui demandèrent comment il osait exposer ainsi sa vie. « Je ne crains pas pour ma vie, leur répondit-il. Dieu saura s'il veut la conserver. C'est en lui que je mets maintenant tout mon espoir. Puisqu'il est ainsi, lui dirent-ils, vous devez triompher de l'usurpateur qui ne met sa confiance que dans les hommes. Quant à nous, nous sommes prêts à tout tenter et à verser pour vous jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Nous sommes le plus intime confident de l'usurpateur. Nous allons vous faire entrer parmi nous dans la ville et nous vous cacherons jusqu'à ce qu'il soit temps de vous montrer. » Parthéman s'abandonna à la fidélité de ses officiers et leur dit de faire tout ce que le ciel et leur dévouement leur inspireraient. Ils le firent entrer dans la ville et le cachèrent dans la maison de l'un d'entre eux. Ils assemblèrent ensuite les principaux officiers du nouveau roi qui avait autrefois appartenu à Parthéman et leur apprirent son retour. Ceux-ci firent éclater leur joie et lui prêtèrent de nouveaux serments de fidélité. On se jeta sur l'usurpateur, on lui ôta la vie et on remit sur le trône le roi Parthéman aux acclamations de tout le peuple. Ce monarque, instruit par le malheur, n'oublia jamais de quelle manière il avait recouvré l'empire. Il se montra toujours soumis et religieux envers Dieu, juste et clément envers les hommes. Le ciel le combla de ses faveurs, et son règne fut une suite continuelle de succès et de prospérité. Le jeune intendant, en finissant l'histoire du roi Parthéman, protesta de nouveau à Tsarparthe qu'il mettait toute sa confiance en Dieu, qu'il n'attendait de secours que de lui, et qu'il était fermement persuadé qu'il ferait bientôt éclater son innocence. Tsarparthe, touché de son air de candeur et des sentiments qu'il faisait paraître, ordonna qu'il fût reconduit en prison. Le lendemain, qui était le 7e jour depuis l'emprisonnement du jeune intendant, le 7e vizir, qui se nommait Bekemal, vint trouver le roi Tsarparthe pour l'exciter à ordonner la mort du jeune intendant, en lui représentant que son crime était évident et demandait un châtiment prompt et exemplaire. Tsarparthe ordonna qu'on fît venir le coupable en sa présence et lui dit « Je ne puis différer plus longtemps ta punition. Mon honneur et la tranquillité de l'État exigent ta mort et tu ne peux attendre de moi aucun pardon. » « Sire, dit le jeune intendant, plus la faute est grande et plus il y a de mérite à pardonner. Un souverain tel que vous peut aisément et sans crainte pardonner à un malheureux comme moi quand la faute aurait éclaté aux yeux du monde entier. À plus forte raison, quand les apparences seules et la malignité le condamnent. Faire grâce de la vie, c'est la plus grande grâce qu'on puisse faire. Par là, la puissance des rois se rapproche de celle de la divinité. Car laisser vivre celui qu'on peut faire mourir, c'est, pour ainsi dire, rendre la vie à un mort. L'exemple du roi Béekerd prouve que les souverains qui font usage de la clémence en sont eux-mêmes quelquefois récompensés. Tsarparthe parut désirer entendre l'histoire du roi Béekerd, et le jeune homme la raconta en ces termes.